Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Gwendoline Troyano et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin et à la technique, Clément Daté.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous poursuivons notre série consacrée au risque de récession. Le ralentissement économique mondial suscite chaque jour plus d'inquiétudes et les gouvernements se préparent à affronter une récession généralisée. Face à cette menace, les banques centrales affûtent leurs outils monétaires dans l'espoir de soutenir la croissance. Baisse des taux directeurs, rachat d'actifs, les recettes imaginées pendant la crise de 2008 pourraient cependant ne pas suffire. Et pour certains, il faut aujourd'hui réinventer la théorie monétaire et les politiques qui l'accompagnent. Alors que peuvent encore les banques centrales pour l'économie? Voilà l'épineuse question qui va nous occuper jusqu'à 15h. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Les banques centrales au chevet de la croissance, c'est notre sujet aujourd'hui en compagnie de Christophe Blot, économiste à l'OFCE et professeur associé à l'Université Paris-Nanterre, et Gézabel Coupé-Soubéran, économiste et maîtresse de conférences à Paris, un Panthéon-Sorbonne. À 14h50, on retrouvera le journal de l'Écho, présenté par Xavier Martinet.
Nous avons décidé aujourd'hui de revoir la cible du taux de la Réserve fédérale d'un quart de point, l'abaissant à un taux de 2 à 2,25%. Les perspectives pour l'économie américaine restent favorables et cette action vise à soutenir cela. Elle vise à prévenir les risques découlant de la croissance mondiale et de l'incertitude commerciale, à contrebalancer les effets que ces facteurs ont actuellement sur l'économie et promouvoir un retour plus rapide de l'inflation à notre objectif taux symétrique de 2%. Tous ces objectifs viennent en renfort de notre objectif global, soutenir l'expansion avec un marché du travail fort et une inflation proche de notre objectif pour le bénéfice du peuple américain.
Gézabel Coupé-Soubéran et Christophe Blot, bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, la Fed. C'était le 31 juillet dernier. Alors cette décision de baisser les taux directeurs après 4 ans de normalisation de la politique monétaire américaine, ça a été une surprise, Christophe Blot, parce que finalement l'économie américaine se porte plutôt bien.
Alors non, c'est pas une surprise dans le sens où elle était plutôt anticipée par les marchés. La Banque centrale avait un peu préparé à ce type de décision-là en amont. Après, c'est effectivement plutôt une surprise si on regarde les conditions macroéconomiques dans lesquelles sont les États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un niveau de chômage qui est très bas, on a une croissance qui reste fortement dynamique. Les différentes estimations tendent à penser que l'économie américaine est proche de son potentiel de croissance. Et donc, du coup, aujourd'hui, finalement, il n'y a pas forcément de raison, si on regarde juste la croissance, d'avoir des taux plus bas.
Alors, comment expliquer cette décision, justement?
Alors, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que l'inflation reste inférieure à la cible de 2%, ce que vient de dire effectivement Jérôme Powell ici, qui est l'objectif d'inflation que cherche à atteindre la Banque centrale américaine. Ça, c'est le premier point. Donc, tant que cette inflation est à 2%, elle peut un peu essayer de justifier d'avoir une politique monétaire un peu plus souple. Et puis, il y a effectivement des tensions, des risques sur l'économie mondiale qui font que, on peut, pour anticiper éventuellement un futur ralentissement de l'économie américaine, la Banque centrale peut chercher à baisser les taux d'intérêt. Mmh. Dernier point peut-être, c'est les pressions politiques qui s'exercent aussi sur la Fed, qui peuvent aussi avoir influencé le discours de la Fed et donner, en faisant ce petit geste de baisse d'un quart de point de taux, quelques éléments qui vont dans le sens du discours assez offensif de Trump sur la politique monétaire.
Alors il y a plusieurs points que vous avez soulevés ici, Christophe Blot. Gézabel Coupé-Soubéran, je voudrais vous faire réagir d'abord sur cette question de l'inflation, cette nécessité d'atteindre ce taux de 2%. Qu'est-ce que cela devrait permettre ?
La stabilité monétaire, c'est-à-dire la stabilité des prix, hein, si vous voulez, enfin de l'évolution en tout cas du niveau général des prix, c'est un objectif central, un objectif majeur de toutes les banques centrales quasiment dans le monde. C'était déjà le cas avant la crise, c'est encore le cas depuis la crise, au point d'ailleurs que l'on peut s'interroger sur l'évolution des missions des banques centrales, en dépit de la crise qui aurait pu provoquer un remaniement important des missions des banques centrales. Les banques centrales restent toujours, si vous voulez, axées sur cet objectif de stabilité monétaire. Alors, avec toutefois des nuances importantes à souligner. C'est que avant la crise, il s'agissait, si vous voulez, de maintenir l'inflation à un niveau proche de 2% en faisant en sorte que l'inflation ne dépasse pas, ne déborde pas ces 2%.
Aujourd'hui, l'inflation est trop basse.
Voilà. Et aujourd'hui, depuis la crise, eh bien, structurellement, l'inflation est basse. Il a fallu lutter, non pas contre l'inflation, mais contre son contraire, contre la déflation. Et les banques centrales ont du mal aujourd'hui à coller, si vous voulez, à cette cible de 2%. Avant la crise, elles y parvenaient bien. La question, c'était toutefois, et on la posait peut-être pas suffisamment, c'était est-ce que véritablement elles y parvenaient parce que elles étaient efficaces dans leur action. Les banques centrales se targuaient d'y parvenir parce qu'elles étaient efficaces. En réalité, l'inflation était déjà, si vous voulez, structurellement basse du fait d'un contexte macroéconomique particulier, celui de la mondialisation. Bon, et depuis, ces facteurs structurels qui maintiennent les prix à la baisse, eh bien, demeure.
Alors, ce qu'on a envie de comprendre, c'est ce qu'une baisse des taux du Richter produit comme effet pour les consommateurs, d'abord, Christophe Blot, et c'est ce qui explique peut-être qu'il y a eu autant de pression d'une part de Donald Trump pour cette baisse des taux du Richter, mais aussi des marchés.
Alors, quel est l'objectif ? En fait, quand la Banque centrale baisse son taux du Richter, c'est un taux en fait de très court terme. C'est un taux qui va concerner uniquement quelques intervenants des banques sur les marchés et qui va en fait concerner des échanges, des prêts d'argent au jour le jour. D'accord ? Mais en fait, cette baisse des taux de la Banque centrale, elle va se diffuser aux autres taux d'intérêt dans l'économie, et notamment aux taux à plus long terme, et également aux marchés actions, aux différents marchés financiers. D'accord ? Donc l'idée, c'est qu'en baissant les taux d'intérêt, en assouplissant sa politique monétaire, la Banque centrale cherche à finalement réduire le coût de financement pour l'ensemble des acteurs.
Et ça augmente la circulation de la monnaie, la quantité de monnaie en circulation.
Alors,
plus exactement.
Pas nécessairement, en fait. Par un biais indirect, c'est-à-dire que ça peut induire plus de crédits de la part des banques, et donc plus de consommation, plus d'activité, plus de monnaie effectivement en retour. D'accord ? Donc ça, c'est effectivement l'effet recherché, c'est de stimuler la demande via l'effet sur l'ensemble des conditions de financement, donc pas uniquement les taux d'intérêt de très court terme, mais l'ensemble des taux d'intérêt. Donc c'est la diffusion en fait de cette baisse des taux qui doit stimuler la dépense, et donc en stimulant la dépense, ensuite on va chercher à améliorer la situation sur le marché du travail, et donc par ce biais-là relancer une dynamique de prix et de salaire.
Donc ceux qui sont censés en profiter, Jésabelle Coupé-Soubéran, c'est à la fois les États, les consommateurs, les marchés.
Oui, tout le monde est censé en profiter, mais
peut-être moins les banques.
Alors, en réalité, les acteurs qui ont sans doute le plus profité de la politique monétaire de gestion de crise, celle menée depuis 2007-2008, ce sont les banques et les marchés financiers. Les entreprises et les ménages, eux, en ont beaucoup moins profité. Et pourquoi cela ? En fait, vous avez mis l'accent sur une relation qui est centrale quand on veut comprendre l'effet de la politique monétaire. En fait, les banques centrales émettent une monnaie, qui est la monnaie centrale, qui n'est pas celle qui circule dans l'économie réelle. Il n'y a qu'une toute petite partie de cette monnaie centrale qui circule dans l'économie réelle, c'est la partie constituée par les billets. Mais quand on dit, si vous voulez, les banques centrales injectent des liquidités, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles facilitent l'accès à la liquidité des banques, d'accord ? Et donc, elles abreuvent les banques de liquidités centrales, mais cette monnaie centrale-là, elle est exclusivement utilisée par les banques.
Donc, ce sont les banques commerciales qui créent la monnaie que nous utilisons.
Exactement. En fait, après, tout cela est quand même censé faciliter les crédits que peuvent octroyer les banques commerciales. Pourquoi ? Parce que lorsque les banques commerciales octroient des crédits, ensuite elles vont avoir des règlements à se faire entre elles. Et ces règlements, elles les font dans de la monnaie centrale. Donc la disponibilité de la monnaie centrale est une sorte de lubrifiant, si vous voulez, pour faciliter le crédit. Mais si c'est pas dans le modèle d'activité des banques de faire du crédit aux PME, eh bien, elles ont beau avoir une grande disponibilité en monnaie centrale, eh bien, pour autant, ça ne permettra pas de faire augmenter considérablement la monnaie en circulation dans l'économie. Et ça veut dire que cette relation qui est fondamentale entre la monnaie centrale, la base monétaire, et la quantité de monnaie qui circule dans l'économie, ce qu'on appelle la masse monétaire, c'est une relation qui, aujourd'hui, ne fonctionne plus. ou en tout cas fonctionne très très mal.
Alors ça, c'est un point effectivement très important. Et puis il y a aussi un autre obstacle à cette relance de la croissance grâce à la baisse des taux, c'est le fait que cette baisse des taux directeurs comporte des risques et peut notamment entraîner la formation de bulles spéculatives, Christophe Blot. Et c'est notamment ce qui s'est passé, ce qui a entraîné peut-être en partie la crise de 2008.
Alors effectivement, dans ces politiques monétaires expansionnistes, cette politique de taux bas ou ces politiques d'achat d'actifs, comme on va jouer sur les marchés, sur les prix d'actifs, ça peut avoir des effets négatifs. Donc c'est difficile de séparer finalement la bonne montée du prix d'actifs de la mauvaise montée du prix d'actifs. C'est-à-dire qu'il est normal qu'une politique monétaire plus expansionniste stimule les prix d'actifs. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'elle les stimule suffisamment, donc de façon à favoriser les conditions de financement, ou est-ce qu'elle crée finalement de l'instabilité financière en créant des bulles, trop de crédits qui vont alimenter de la spéculation, etc. Et donc, la balance est à trouver effectivement entre cette politique monétaire qui aurait des effets plutôt vertueux en termes de croissance et cette politique monétaire qui aurait des effets plutôt en termes de risque et un risque d'instabilité financière qui a été souligné avec effectivement un débat assez important après la baisse des taux en 2000-2001 et le maintien de taux aux États-Unis notamment à un niveau très bas, qui aurait finalement contribué à la formation d'une bulle sur le marché immobilier. Il y a des débats sur ce sujet-là, sur le fait, pas tant qu'il y ait eu une bulle et qu'il y ait une crise financière, ça, il n'y a pas de doute, mais sur la contribution précise de la politique monétaire. Aujourd'hui, on retrouve ce débat quand on voit l'évolution des marchés boursiers aux États-Unis notamment, avec l'envolée des indices boursiers. Et est-ce que là, encore une fois, ce n'est pas une envolée excessive liée à une politique monétaire finalement qui aurait peu d'effets favorables en termes de croissance, mais des effets plutôt néfastes en termes de stabilité financière et de création de bulles. Et encore une fois, il y a un débat aussi sur quelle est la contribution réelle de la Banque centrale et de la politique monétaire à ces mouvements-là.
Isabelle Coupé-Soubéran.
Oui, il y a un problème de myopie des banques centrales vis-à-vis des conséquences de la politique monétaire sur la stabilité des marchés financiers, sur la stabilité du secteur bancaire. C'était déjà le cas avant la crise. Ce qui a conduit en partie à la crise, c'est un facteur parmi d'autres, mais c'est un facteur important, c'est effectivement une politique monétaire très accommodante qui ne s'était normalisée à l'époque qu'à partir du milieu des années 2000, enfin à partir de 2005, et c'était trop tard. La normalisation est arrivée trop tard. Et donc cette politique monétaire de bateau d'intérêt est pour beaucoup dans la crise, elle a favorisé une prise de risque très importante. Et aujourd'hui encore, finalement, la politique monétaire ne prend pas suffisamment, en tout cas les banques centrales, lorsqu'elles conduisent leur politique monétaire, ne prennent pas suffisamment en considération les effets de leur action sur la stabilité financière.
Low inflationary pressures have kept monetary policy in the euro area.
La faible pression inflationniste a maintenu la zone euro dans une politique très expansionniste pendant plusieurs années. L'eurosystème a baissé son taux d'intérêt à zéro et même en dessous et poursuit un objectif d'achat d'actifs de 2,4 billions d'euros. L'inflation devrait maintenant retourner à des niveaux compatibles avec notre définition de la stabilité des prix. Ce n'est donc pas une surprise si depuis quelque temps maintenant, les acteurs du marché financier prévoient l'arrêt d'achat d'actifs avant la fin de 2018. I find these market expectations plausible. Telles que se présentent les choses, je pense que ces attentes vis-à-vis du marché sont plausibles. Ce serait un premier pas sur le long chemin vers la normalisation, qui donnerait aussi aux décideurs une meilleure façon d'aller de l'avant.
Voilà, le président de la Banque fédérale allemande, Jens Weidmann, c'était le 6 juin 2018, lors du 31e congrès international des actionnaires. Weidmann qui appelle de ses voeux cette politique de normalisation qui consisterait pour la Banque centrale européenne à remonter progressivement ses taux directeurs, comme la Fed l'a fait pendant 4 ans. Mais en réalité, cette normalisation n'a jamais eu lieu, Isabelle Coupé-Soubéran.
Alors, cette normalisation, on commençait effectivement à en parler jusqu'à il y a quelques mois, d'accord ? Et on en parlait surtout aux États-Unis, parce que à partir de 2015, la Fed avait commencé à remonter très graduellement son taux directeur. Je crois que l'année charnière, ça aura vraiment été l'année 2019, parce que ça, elle aura marqué une interruption dans ce mouvement de normalisation. Au niveau de la BCE, on était loin quand même, si vous voulez, d'imaginer une normalisation possible. Il y avait éventuellement une sorte de limitation des achats d'actifs. On n'était plus dans une phase d'accélération des achats d'actifs.
Mais tant que la croissance n'était pas plus importante, il ne pouvait pas y avoir de remontée des taux directeurs.
Exactement. Il y avait quand même un décalage entre l'action de la Fed qui avait entrepris cette normalisation et l'action de la BCE qui était toujours dans une politique monétaire très accommodante, mais peut-être aussi parce que il y a eu une différence de rythme dans l'action de ces deux grandes banques centrales. La Fed a commencé beaucoup plus tôt et a baissé beaucoup plus vite ses taux directeurs pour faire face à la crise. Elle a aussitôt fait du quantitative easing, c'est-à-dire une politique d'achat massif d'actifs sur les marchés, alors que la BCE, elle, ne s'y est convertie que beaucoup plus tard. Donc il y avait vraiment un décalage. En tout cas, quoi qu'il en soit, il est vrai qu'aujourd'hui, il est quasiment plus possible, si vous voulez, d'envisager une normalisation. Il n'y a plus de normalisation, on en est même à nouveau dans une nouvelle vague d'accommodation.
Et alors justement, la Banque Centrale Européenne devrait à nouveau abaisser ses taux directeurs au mois de septembre. Mais alors comment est-ce qu'elle peut encore agir, Christophe Blot?
Jusqu'ici, ce qu'en fait... qui a été dit au mois de juillet par Mario Draghi, qui est encore président de la Banque Centrale Européenne jusqu'en novembre, c'est
que
BCE réfléchit à des moyens de restimuler l'économie, parce qu'effectivement, le taux directeur de la Banque Centrale Européenne, il est déjà à zéro. Donc il peut plus baisser. Et donc, ce que faisait la Banque Centrale jusqu'ici, c'est qu'effectivement, elle avait une politique d'achat d'actifs. Cette politique d'achat d'actifs consiste à agir sur les marchés en achetant des titres publics émis par le gouvernement allemand, par le gouvernement français, le gouvernement italien, par exemple, pour faire baisser les taux d'intérêt, mais à long terme. Tout à l'heure, on a parlé de taux à court terme. Cette fois-ci, avec la politique d'achat d'actifs, on cherche à agir plus directement sur les taux à long terme. Donc, c'est cette politique qui semblait se normaliser, prendre fin progressivement avec l'arrêt des achats d'actifs et de titres en 2018. Et aujourd'hui, se pose la question, est-ce qu'on recommence ou pas un nouveau cycle? Alors, il y a un certain nombre de contraintes techniques et juridiques qui font que la Banque Centrale y réfléchit parce qu'elle s'est fixé un certain nombre de limites sur quelle quantité de titres allemands elle peut acheter ou de titres italiens. Et donc, elle a atteint à peu près ses limites. Donc, aujourd'hui, elle doit essayer de voir comment est-ce qu'on peut renouveler un peu ses politiques d'achat d'actifs ou en modifiant un peu un certain nombre de contraintes.
Et elle peut aussi agir en faisant payer davantage les banques pour qu'elles fassent circuler davantage la monnaie.
Alors, c'est une autre partie des politiques monétaires non conventionnelles, effectivement, qui a été mise en œuvre notamment par la Banque Centrale Européenne. C'est la politique de taux négatif. D'accord ? Donc, ça consiste à dire que on a parlé tout à l'heure de monnaie créée par la Banque Centrale au profit des banques. Effectivement, cette monnaie, elle est créée par la Banque Centrale Européenne ou par la Fed. Elle se retrouve à nouveau d'un côté dans les comptes de la Banque Centrale Européenne parce que ces banques vont garder cette monnaie sous forme de réserve auprès de la Banque Centrale Européenne. D'accord ? Et donc, c'est ces réserves aujourd'hui qui sont rémunérées à un taux négatif. Donc, du coup, effectivement, les banques, elles font des pertes sur ces réserves détenues auprès de la Banque Centrale. L'objectif de la Banque Centrale, c'est de faire pression encore plus fortement sur les taux d'intérêt, de façon à avoir des taux le plus bas possible par une partie des taux qui sont négatifs. Alors, ce qu'elle a plutôt dit, c'est plutôt on va essayer de réfléchir à nuancer ce type de mesures, parce que les banques s'en plaignent beaucoup. Il y a un lobby bancaire assez fort pour dire ces taux d'intérêt négatifs, en fait, c'est ça qui plombe notre activité, notre profitabilité, c'est un peu ça qui nous empêche de faire du profit. C'est un argument largement contestable,
oui.
Mais c'est l'argument qu'elles avancent et qui semble trouver quelques oreilles accommodantes au sein des banques centrales pour dire, effectivement, il faut peut-être nuancer cette politique de taux négatifs.
En même temps, les banques traditionnelles sont confrontées à un certain nombre de difficultés, ne serait-ce que par, alors c'est un autre sujet, mais à l'apparition des néobanques, enfin, il y a un certain nombre de facteurs qui fragilisent à l'heure actuelle les banques commerciales. Est-ce que elles n'ont pas eu raison, en un sens, Jezabel Coupé-Souberan, de dire qu'elles portent beaucoup dans ce mécanisme.
Alors, c'est vrai, si vous voulez, qu'elles sont, en partie affectées par les taux bas, parce que ça maintient une pression à la baisse sur leur marge d'intermédiation. Bon, cela étant, il faut quand même pas oublier qu'elles se refinancent gratuitement auprès de la Banque Centrale. Elles ne financent pas encore gratuitement leurs clients. En tout cas, il commence à y avoir quelques coups un peu marketing sur ce sujet-là. Mais la marge d'intermédiation des banques est étroite, si vous voulez. Mais je crois que les banques surestiment quand même considérablement le problème et puis souvent masquent aussi le fait qu'elles ont une grande part de responsabilité dans la situation actuelle. La situation actuelle, elle est le résultat de la crise qu'il a fallu gérer et de la panade dans laquelle finalement on est resté.
Mais ce qu'on entend en tout cas, c'est que certains économistes critiquent cette politique dite non conventionnelle qui est menée par la BCE en estimant que l'inflation est de toute façon condamnée à être basse. Christophe Blou, est-ce qu'il y a des critiques qu'on peut formuler?
Bah, effectivement, enfin, la question c'est de savoir, est-ce que cette politique monétaire, elle a, qu'elle soit conventionnelle par la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis ou par la réactivation de certaines mesures non conventionnelles en zone euro, est-ce que cette politique a des chances de ramener l'inflation vers sa cible? Alors, aujourd'hui, on a un certain nombre de raisons d'en douter, parce qu'on se dit, bah, finalement, elles l'ont déjà fait beaucoup. Ça a certes probablement permis d'éviter la déflation de façon prolongée, mais on voit bien que c'est insuffisant pour ramener l'inflation vers 2%. Alors, ça veut dire quoi? Potentiellement deux choses, deux explications. C'est un, finalement, il reste une insuffisance de demande à traiter. Donc, effectivement, il reste un besoin de politique économique, pas forcément uniquement la politique monétaire, mais également la politique budgétaire, qui peuvent être aussi expansionnistes pour soutenir la demande et effectivement relancer l'inflation. Ou, autre facteur, c'est que cette inflation, elle est structurellement plus basse parce qu'il y a eu tout un tas de réformes sur le marché du travail qui ont conduit à libéraliser le marché du travail, faire peut-être perdre du pouvoir de marché, un pouvoir de marché aux salariés pour négocier des augmentations de salaire, parce qu'il y a des économies qui sont fortement ouvertes avec des pressions de la mondialisation qui font pression sur les prix.
Et puis un vieillissement démographique qui entraîne de plus en plus d'épargne.
Effectivement, un vieillissement démographique et une demande d'épargne. Donc ça va un peu sur l'accès. Bah, il y a trop de demandes d'épargne et pas assez de demandes. Ça peut être aussi pour revenir sur le marché du travail ou sur le modèle social, c'est des inégalités avec des marchés du travail qui sont très polarisés, avec des individus qui sont effectivement en situation de plein emploi, qui ont des capacités de négociation assez importantes, et puis des tas de segments sur le marché du travail avec des contrats précaires, des salaires bas, et qui, eux, entraînent finalement les prix à la baisse. Et si c'est le cas, ben dans ce cas-là, peut-être que ce n'est pas la politique monétaire, l'instrument idoine, efficace pour arriver à résoudre et à ramener l'inflation vers 2%.
Ça pose effectivement la question de l'efficacité des mesures prises par la BCE, Gisèle Coupé-Soubéran. Oui. L'efficacité sur l'économie réelle.
Oui, c'est vrai. Alors, et puis surtout, si vous voulez, si on considère que les taux vont rester bas très longtemps, ce qui semble être véritablement le cas, si l'inflation aujourd'hui, telle qu'on la mesure, c'est-à-dire en la mesurant à partir de l'évolution du prix des biens et des services, sans y inclure le prix des actifs financiers. Si cette inflation-là reste structurellement basse, il faut penser la conduite de la politique monétaire dans ce contexte très particulier. Et puis, l'erreur qu'on a sans doute commise jusqu'à maintenant, c'est de raisonner toujours de manière binaire, en pensant politique monétaire ou politique budgétaire. Vous voyez, dans les débats actuels, souvent ce qu'on entend, c'est eh bien la politique budgétaire doit prendre le relais de la politique monétaire. La politique monétaire n'a plus d'efficacité, il faut que la politique budgétaire prenne le relais. Mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner dans ce que l'on appelle le policy mix, c'est-à-dire qu'il faut raisonner en combinant l'action de la politique monétaire et de la politique budgétaire. Et il faut même aller au-delà de cette combinaison, parce que ce qu'il faut également prendre en considération, c'est justement l'effet de la politique monétaire sur les marchés financiers, sur le système financier, sur la stabilité financière. Et ça veut dire qu'il faut combiner à ça également des mesures de prévention des déséquilibres financiers. C'est tout ce mix de politique économique qu'il faut aujourd'hui repenser.
Il faudrait profiter cet argent créé par la Banque Centrale Européenne, pour parler un peu rapidement, pour justement investir dans les infrastructures, dans l'éducation. C'est le moment pour le faire, Christophe Blou?
Effectivement, si on regarde en matière de politique budgétaire, donc qui est la politique qui peut être mobilisée pour faire des investissements d'infrastructures, notamment, aujourd'hui, les conditions de financement des États sont très favorables pour avoir des politiques d'investissement à long terme, alors qu'ils peuvent être effectivement des politiques d'infrastructure, mais qui peuvent être des politiques destinées à la transition énergétique. Il y a des tas d'objectifs économiques et sociaux qui peuvent être mis en avant et financiers, notamment par des politiques budgétaires, dans un contexte de taux d'intérêt bas, soit parce que structurellement les taux d'intérêt sont plus bas dans l'économie, soit parce que effectivement les banques centrales y contribuent aussi en ayant des politiques monétaires très expansionnistes qui font pression sur les taux. Et donc ce qui a été dit, c'est effectivement bien l'idée que la banque centrale, elle n'est pas toute puissante, elle ne peut pas résoudre tous les problèmes de l'économie, elle ne peut pas faire en sorte que le chômage soit au plus bas, que l'inflation soit à 2%, qu'il y ait stabilité financière. Elle contribue à ces différents objectifs, mais elle n'y contribue pas seule. Il y a d'autres acteurs qui contribuent, et si on ne réfléchit pas sur l'ensemble des actions que peuvent mener ces acteurs, alors finalement on n'arrivera pas à résoudre les problèmes qu'on a vus émerger à partir de 2007-2008.
Et puis au départ, ce n'est pas le mandat de la Banque Centrale Européenne que de promouvoir le plein emploi. C'est l'une des différences avec la Réserve fédérale américaine.
Alors, c'est vrai que là, il y a des différences d'objectifs. Hein. Pour la Réserve fédérale américaine, l'objectif, c'est un maximum d'emplois, des prix stables et des taux d'intérêt de long terme modérés. D'accord. C'est beaucoup plus hiérarchique comme objectif, si vous voulez, pour la Banque Centrale Européenne, parce que si vous allez sur le site de la Banque Centrale Européenne, eh bien, l'objectif tel qu'il est présenté, ça reste la stabilité des prix. D'accord, donc la stabilité monétaire.
D'où le fait qu'on a dit qu'elle était un petit peu sortie de son mandat pendant la crise.
Bah, de fait, parce que si vous voulez, jusqu'à la crise, la Banque centrale ignorait totalement l'incidence de son action sur la stabilité financière. La crise est venue rappeler que, une politique monétaire trop accommodante, ça peut créer de l'instabilité financière. Et ensuite, c'est aux banques centrales de réparer cette instabilité financière. Donc, de fait, elles ont eu un objectif de stabilité financière, mais dont on peut remarquer qu'il n'est toujours pas inscrit dans le mandat, véritablement, de la Banque centrale.
Alors, on a vu qu'effectivement, la réserve fédérale américaine avait fait le choix d'abaisser à nouveau ses taux directeurs. C'est un choix vers lequel se dirige la Banque centrale européenne. Mais alors, qu'en est-il du côté de la Chine, qui connaît également un fort ralentissement de sa croissance? Elle utilise aussi l'outil monétaire pour tenter d'endiguer ce ralentissement, Christophe Blau?
Bah, encore une fois, en Chine, comme aux États-Unis, comme dans la zone euro, la Banque centrale ne pourra pas être tenue responsable être garante de l'ensemble des objectifs économiques et sociaux de l'économie. Donc, la Banque centrale en Chine, elle est dans un environnement un peu différent. C'est-à-dire que si on compare, par exemple, aux États-Unis, on a un marché financier très déréglementé, les taux d'intérêt sont fixés librement par les banques, l'ensemble des marchés est libéralisé. En Chine, c'est pas le cas, ça se fait de façon beaucoup plus progressive. Ce qui fait que la banque centrale, déjà, elle est également beaucoup moins indépendante, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont soumises à l'accord et à l'aval du gouvernement. Donc elle agit de façon beaucoup plus étroite avec les souhaits du gouvernement. Et elle a différents types d'instruments. Elle a effectivement des instruments de taux, comme peuvent l'avoir les banques centrales, la Banque Centrale Européenne ou la Banque Centrale aux États-Unis. Mais elle va aussi avoir, même si elle tend progressivement à s'en écarter, des cibles en termes d'évolution de la masse monétaire ou d'évolution du crédit. Elle va aussi, par exemple, contrôler ce qu'on appelle le taux de réserve obligatoire. Le taux de réserve obligatoire, c'est en fait quand un ménage fait un dépôt de 100 yuan ou 100 euros auprès de sa banque commerciale, la banque en reverse une partie sur son compte auprès de la banque centrale. D'accord ? Donc, dans la zone euro aux États-Unis, ce taux de réserve obligatoire, il est très stable. D'accord ? Mais finalement, la banque centrale chinoise, elle l'utilise comme instrument pour essayer d'influencer finalement la création monétaire faite par les banques commerciales. Donc elle a une palette d'instruments qu'elle veut utiliser de façon un peu plus large pour atteindre effectivement ses objectifs de contrôle du crédit, de croissance et de transition progressive de l'économie chinoise, d'une économie très ouverte sur l'extérieur vers une économie dont la croissance serait plutôt tirée par la demande intérieure.
Mais ce qui lui a été beaucoup reproché par Donald Trump, c'est de dévaluer sa monnaie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer que la Banque centrale chinoise a décidé de jouer sur le taux de change, Jezabel Coupé-Soubéran? Elle l'a beaucoup fait dans le passé.
Oui. Alors ça, c'est pas tellement dans le cadre de sa politique monétaire, mais c'est plutôt une réponse apportée à la guerre commerciale lancée par Donald Trump, qui a décidé de rehausser les droits de douane sur un certain nombre de produits chinois. Comment les Chinois ont réagi? Eh bien, dans un premier temps, effectivement, en intervenant de manière un peu discrète sur le marché des changes pour faire baisser le taux de change de leur monnaie et ainsi, si vous voulez, eh bien, regagner en compétitivité prix de leurs exportations, ce qui était perdu par l'augmentation des droits de douane. Et puis, il y a eu ensuite une autre réaction puisqu'il y a également réponse des autorités chinoises par l'augmentation des droits de douane sur un certain nombre de produits américains. Les travaux du CEPI sont riches d'enseignements sur ces aspects-là. Les politiques commerciales et en particulier cette guerre commerciale lancée par Donald Trump est très suivie par les économistes du CEPI.
Et donc la Chine, la Banque Centrale Chinoise a beaucoup joué sur le taux de change depuis les années 2000. C'est en ça qu'on peut parler peut-être d'un modèle mercantiliste de cette politique de change en Chine, Christophe Blau?
Si on regarde un peu, en fait, si on revient un peu plus en arrière, c'est-à-dire que si on regarde les années 90, on a eu finalement la crise des pays asiatiques, et cette crise des pays asiatiques a révélé en fait la fragilité éventuellement d'un modèle basé sur une demande assez dynamique, tournée un peu vers l'exportation, mais qui accumule finalement assez peu de réserves en monnaie étrangère. Ce qu'essaie de faire la Banque Centrale Chinoise, c'est finalement d'avoir une politique de change qui va accompagner ce modèle de développement économique, tournée évidemment au départ sur le commerce extérieur, par la promotion des exportations. Et pour se protéger contre ces risques éventuellement de crise financière, de flux de capitaux qui peuvent effectivement être favorables au début et inonder l'économie et le système financier, mais se retirer très rapidement, d'avoir déjà un système financier qui est beaucoup plus fermé pour éviter ces dévaluations brutales de monnaie et d'essayer de maintenir une compétitivité contrôlée de façon à continuer à promouvoir ce modèle de croissance. Donc ça, c'est un instrument, mais en même temps, la Banque centrale chinoise et l'économie chinoise cherchent aussi à internationaliser progressivement le rôle de sa monnaie. Et donc elle a joué hein, depuis les années 90 de façon assez progressive sur à la fois l'arme du change pour soutenir son modèle de croissance, avec un modèle, avec une économie plutôt fermée au flux de capitaux, et à la fois une internationalisation progressive du rôle de sa monnaie pour lui donner un rôle politique, économique et géopolitique dans l'économie et les échanges financiers mondiaux.
Isabelle Coupé-Souberain.
Juste pour souligner qu'il y a effectivement une combinaison de politique économique beaucoup plus large en fait en Chine que dans les économies occidentales, avec une combinaison politique monétaire, politique de change, politique budgétaire, également un peu de politique macroprudentielle, hein, c'est-à-dire une politique de prévention des déséquilibres financiers. Et il y a du boulot en la matière parce que les déséquilibres financiers se sont considérablement accrus en Chine au cours de ces dernières années. Mais il y a vraiment, si vous voulez, cette combinaison qui fait défaut, en fait, dans les économies occidentales.
On comprend bien que chaque banque centrale a un rôle à jouer, une certaine marge de manœuvre pour soutenir la croissance. Mais alors, est-ce que ces politiques menées par les différentes banques centrales entrent nécessairement en conflit? Est-ce qu'on pourrait imaginer une coopération aujourd'hui entre elles, Isabelle Coupé-Souberain?
C'est un petit peu compliqué parce que au fond il y a quand même des décalages conjoncturels assez importants, c'est-à-dire que la conjoncture, si vous voulez, de la zone euro est pas complètement synchrone, en phase avec celle des États-Unis. Alors bien sûr, on est encore dans un contexte globalisé, même s'il y a des tensions là, et donc il y a parfois des formes de synchronisation, mais il n'y a pas une synchronisation parfaite des conjonctures. Et par conséquent, si vous voyez la politique monétaire comme un instrument de réglage macroconjoncturel, il n'y a pas forcément de raison pour que la politique monétaire de la BCE se cale sur celle de la Fed.
Christophe Blot, sur une possible coopération entre les banques centrales.
Effectivement, c'est possible quand elles font face au même problème. On l'a vu en 2008, quand les banques centrales sont toutes confrontées à une situation d'effondrement de la liquidité et d'effondrement des marchés financiers. Elles ont, de façon assez concertée, à un moment, baissé les taux d'intérêt de façon assez forte. Il y a également des opérations de coopération, d'échange, finalement, d'argent où la Fed a prêté des dollars à la Banque Centrale Européenne qui pouvait comme ça prêter finalement à des banques européennes qui avaient des besoins de refinancement en dollars et qui ne pouvaient pas se refinancer auprès de la Banque Centrale Américaine.
Mais aujourd'hui, leurs intérêts sont trop divergents.
Leurs intérêts sont divergents dans le sens où en fait, elles sont effectivement dans une situation économique différente. On a vu avec la situation en termes de croissance et d'emploi aux États-Unis différente par rapport à celle de la zone euro. Donc, la question, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ces banques centrales, elles vont communiquer essentiellement sur la question de leur économie interne et pas tant sur le besoin de coopérer entre elles. Alors, elles peuvent le faire si, finalement, la situation converge, mais sinon, elles n'ont pas forcément besoin. Ensuite, du coup, la question qui se pose, c'est finalement, ces politiques, elles ont aussi des effets sur le taux de change. Donc, c'est là où il y a potentiellement, et on voit, c'est réactivé plus par Donald Trump, d'ailleurs, que par les banquiers centraux. Les banquiers centraux, finalement, ils se disent, on regarde pas trop ce qui se passe du côté du taux de change. Alors, on sait pourtant que c'est un élément par lequel la politique monétaire a des effets, mais elles mettent ça de côté, d'accord, de façon à ce que, finalement, elle pas entrer dans une guerre des monnaies. Mais cette guerre des monnaies, c'est un peu ce que voudrait, finalement, aussi, parfois, lancer Trump en plus de la guerre commerciale.
Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
Too tight to mention.
écoutez Money is Too Tight to Mention de Simply Red sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho, chez Isabelle Coupé-Soubéran et Christophe Blosson, toujours avec nous pour parler des banques centrales au chevet de la croissance. Alors pour bien comprendre le rôle joué par les banques centrales, il faut faire un détour par les théories de la monnaie et expliquer d'abord que pour les économistes dits classiques, la monnaie est neutre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'influence sur l'économie réelle, Christophe Blosson.
Alors effectivement, ce que disent les classiques ou les monétaristes avec incarnés par Milton Friedman, c'est que l'économie réelle va être déterminée par un certain nombre de facteurs structurels liés à la productivité, à l'évolution de la croissance démographique, à la situation sur le marché du travail en termes de rigidité réelle ou pas de rigidité réelle. Et par ailleurs, la politique monétaire, elle a peu d'effets, ou alors elle a des effets de très court terme seulement, et que en fait à long terme, il y a une relation qui tiendrait, qui serait la relation quantitative de la monnaie, selon laquelle, en fait, une accumulation supplémentaire de monnaie ne ferait qu'entraîner de l'inflation supplémentaire.
Ça, c'est l'obsession des monétaristes, mais avant d'en venir peut-être aux monétaristes, si on en reste aux classiques, on peut citer par exemple la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say, selon laquelle plus il y a d'offres, plus il y a de demandes, c'est-à-dire que les deux se rencontrent nécessairement.
Et ça, c'est fortement lié à la théorie quantitative de la monnaie. Donc, c'est les deux piliers finalement de la théorie classique et néoclassique, c'est à la fois la loi des débouchés, donc l'offre crée sa propre demande, donc il n'y a pas nécessairement besoin de stimuler la demande par des politiques économiques, qu'elles soient budgétaires ou par des politiques monétaires, d'accord ? En fait, ce qu'il faut, c'est que la productivité et les conditions d'offre vont créer finalement par les ajustements sur les marchés, les ajustements de prix, les ajustements de salaire, vont créer cette demande suffisante. Et le deuxième pilier, c'est qu'effectivement, du coup, ça va avec cette théorie quantitative de la monnaie, c'est-à-dire que finalement, la monnaie est neutre à long terme, ou neutre même dès le court terme, dans le sens où, effectivement, plus de monnaie n'apporte pas d'activité économique supplémentaire, mais simplement des prix.
Et alors à cette vision s'oppose celle de Keynes, pour qui la monnaie peut être théorisée, et ce qu'il dit aussi, c'est qu'elle l'est théorisée de plus en plus lorsque le salaire augmente. Ça, c'est ce qu'apporte véritablement Keynes, Isabelle Coupé-Soubéran.
Oui, ce qu'apporte Keynes, c'est effectivement cette idée que la monnaie, la finance, c'est important, ce n'est pas neutre, et que par conséquent, la politique monétaire peut devenir un instrument de réglage macro-conjoncturel. Alors que dans la vision classique, vous n'avez, comme vient de le dire Christophe, vous n'avez pas besoin de la politique monétaire. Alors, si on refait un peu, si vous voulez, l'histoire des fondements théoriques de l'action des banques centrales, si on se replace dans les années 60-70, eh bien, le banquier central, c'était un banquier central keynésien. Et le banquier central keynésien, c'est en fait quelqu'un de très tolérant vis-à-vis de l'inflation et qui voit même dans l'inflation finalement le prix à payer d'une action en faveur de l'emploi. Vous avez cette relation, cette forme d'arbitrage entre inflation et chômage qui est au cœur de ce qu'on appelle la courbe de Phillips. Donc ça, c'est le banquier central des années 60-70.
Et après, c'est la théorie monétariste qui va devenir dominante.
C'est ça. Après, vous avez la critique de Milton Friedman qui considère que, eh bien, si la politique monétaire est utilisée comme instrument de relance, de toute façon, ce que ça produira à terme, c'est juste un supplément d'inflation. Et au final, eh bien, ça produira de toute façon, ça ramènera le chômage, ça produira encore davantage de chômage. Donc, ça c'est le banquier central des années 80. Celui-ci est très attaché à la lutte. Contre l'inflation. La politique monétaire, c'est plus un instrument de relance. C'est juste, si vous voulez, un instrument permettant d'assurer la stabilité des prix en contrôlant la quantité de monnaie qui circule dans l'économie.
Et aujourd'hui, quelle serait, selon vous, la théorie dominante de la Banque Centrale Européenne, par exemple ?
Aujourd'hui, il est un peu difficile de répondre à la question parce qu'entre-temps, après les monétaristes, il y a eu l'influence des néo-keynésiens qui, eux, mettent plutôt l'accent sur la possibilité d'effectuer un réglage macro-conjoncturel à court terme, qui mettent l'accent sur les anticipations des agents, qui considèrent que ça, c'est central. Et c'est vrai que c'est très présent dans la politique monétaire actuelle, c'est-à-dire que les banques centrales, elles agissent par les différents leviers qu'on a un peu mentionnés tout à l'heure, mais elles agissent aussi beaucoup et surtout en parlant. D'accord. Donc, elles communiquent, elles essaient d'ancrer les anticipations.
Les fameux whatever it takes,
exactement,
quoi qu'il arrive de Mario Draghi en 2012, qui, dit-on, a sauvé l'euro.
Exactement, cette politique de communication dans le cadre des mesures non conventionnelles, cet ancrage des anticipations qu'on appelle le forward guidance, ben ça c'est très important aujourd'hui dans l'action des banques centrales. Donc il y a un peu de ça, il y a un peu de néo-keynésianisme à travers l'ampleur de cette politique de communication. Il y a toujours malgré tout, si vous voulez, des relents monétaristes et l'idée que c'est important, la stabilité monétaire, que ça doit être l'objectif central de la politique monétaire, alors qu'en fait la relation entre la relation au cœur de la théorie quantitative rappelée par Christophe, la relation entre la masse monétaire et le niveau général des prix, c'est une relation qui reste à prouver. Il y a une autre relation, celle qu'on a évoquée un peu tout à l'heure, entre la quantité de monnaie centrale et puis la masse monétaire, qui elle aussi est une relation qui dysfonctionne totalement. Donc vraiment, si vous voulez, les fondements théoriques là de la politique monétaire actuelle sont très friables.
Je vous propose d'écouter maintenant une lecture de la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, le texte publié par Keynes en 1936.
Seule l'expérience pourra nous indiquer dans quelle mesure le maniement du taux de l'intérêt est capable d'entretenir en permanence le flux d'investissement approprié. Pour notre part, nous sommes aujourd'hui assez sceptiques sur les chances de succès d'une politique purement monétaire destinée à agir sur le taux de l'intérêt. Nous nous attendons à voir l'État, qui est en mesure de calculer l'efficacité marginale des biens capitaux avec des vues lointaines et sur la base de l'intérêt général de la communauté, prendre une responsabilité sans cesse croissante dans l'organisation directe de l'investissement.
Voilà, pour Keynes, on l'entend, la politique monétaire est essentielle, mais elle ne suffit pas pour relancer la croissance. Vous diriez à Christophe Blot qu'on s'est trop reposé sur la politique monétaire et qu'on a négligé la politique budgétaire?
On a effectivement pensé, notamment à partir de l'année 2000, donc ce banquier central un peu effectivement néo-keynésien qui a des objectifs monétaristes à long terme avec toujours une vue sur l'inflation qui est au centre de son débat, mais qui n'hésite pas à avoir des politiques expansionnistes ou actives pour gérer le cycle économique. On a pensé que ces banques centrales-là, pendant un moment, pouvaient finalement elles seules résoudre bien des problèmes. Ce que nous rappelle effectivement cet extrait de la théorie générale, c'est que c'est pas nécessairement un instrument suffisant, c'est un instrument qui est utile, qui peut être important dans la gestion macroéconomique, dans la gestion du policy mix, mais c'est pas un instrument suffisant parce que finalement le taux d'intérêt peut être très bas si pour tout un ensemble de raisons, les agents ne veulent pas investir ou ne veulent pas consommer parce qu'ils ne croient pas en l'avenir, soit parce que finalement ils manquent de stimulus de demande par des effets d'entraînement par la politique budgétaire, parce que leurs perspectives économiques sont assombries par exemple une guerre commerciale, parce que ou les situations en termes d'inégalité peuvent aussi réduire la consommation d'un certain nombre d'agents. Alors dans ce cas-là, il faut d'autres leviers de politique économique. Donc Keynes faisait la promotion ici de la politique budgétaire, donc effectivement ça reste une question centrale qui est celle de comment est-ce qu'on coordonne finalement nos différents outils de politique économique, c'est-à-dire la politique budgétaire, la politique monétaire, et au-delà, effectivement, aujourd'hui, le débat qui va plutôt émerger dans le débat plutôt de savoir keynésien, monétariste, c'est aussi finalement remettre le rôle de la stabilité financière dans le centre du débat et dans l'enjeu de policy mix de façon un peu élargie, quel doit être le rôle des banques centrales en matière de stabilité financière, quel doit être le rôle des autres politiques économiques. Donc c'est tout un ensemble de politiques qu'il faut discuter pour atteindre des objectifs de croissance, d'inflation, de stabilité financière, des objectifs sociaux et des objectifs éventuellement au-delà. On parlait tout à l'heure de transition énergétique, par exemple.
On a dit tout à l'heure que la politique monétaire de relance pouvait entraîner un certain nombre de dérives et notamment des bulles spéculatives qui peuvent éclater. Alors, qu'est-ce qui peut être fait, Isabelle Coupé-Soubéran, pour davantage prévenir les déséquilibres financiers que peut entraîner cette politique monétaire?
Il faut combiner la politique monétaire à des mesures de prévention des déséquilibres financiers. Il faut absolument que les banques centrales, aujourd'hui, intègrent les effets de la politique monétaire sur la stabilité financière. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut, parallèlement à une politique monétaire expansionniste, eh bien, surveiller la position le long du cycle financier, c'est-à-dire surveiller par exemple l'évolution du crédit. Vous voyez, quand on mène une politique de bas taux d'intérêt, eh bien forcément ça va partie stimuler le crédit. Ça va par exemple stimuler les crédits immobiliers. Bon, les crédits immobiliers, ça peut être un moteur important de la croissance. Cela étant, si vous laissez s'emballer ces crédits à l'immobilier, eh bien ça peut générer des bulles immobilières. Ces bulles immobilières, lorsqu'elles explosent, elles peuvent être extrêmement appauvrissantes et avoir des conséquences économiques et sociales très importantes.
On
et dégénérer
la crise
financière. Exactement. Et donc, il faut empêcher la formation de ces bulles immobilières. Donc ça veut dire, par exemple, se montrer plus exigeant vis-à-vis des emprunteurs ou se montrer plus exigeant vis-à-vis des prêteurs. Donc il y a tout un ensemble de mesures dites macroprudentielles qu'on peut combiner à la politique monétaire. Et cette combinaison, encore une fois, elle est essentielle. Pourquoi ? Parce que il y a un principe élémentaire de politique économique, c'est autant d'instruments que d'objectifs. On l'a dit, la politique monétaire ne peut pas tout. Même si elle n'a pas pour instrument seulement le taux d'intérêt, elle peut combiner également d'autres instruments. Mais fondamentalement, si vous voulez, on ne peut pas faire reposer à la fois la stabilité monétaire, la stabilité économique, la stabilité financière sur la politique monétaire.
Mais on voit que la voie est particulièrement étroite, effectivement, entre d'un côté cette politique monétaire expansionniste et de l'autre les dérives qu'elle peut entraîner. Le chemin, c'est un chemin de crête, Christophe.
Et ce que ça pose aussi comme question, c'est la question du statut des banques centrales et de leur indépendance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les banques centrales, elles ont différents objectifs assez larges, certains qui ont des effets finalement redistributifs importants, notamment les questions de stabilité financière, c'est aussi des questions qui vont éventuellement jouer plus sur certains agents que sur d'autres. Et donc, est-ce que c'est des banques centrales indépendantes des gouvernements et indépendantes
Du
pouvoir politique, hein. Qui peuvent prendre l'ensemble de ces décisions-là. Donc la question se pose, comment est-ce qu'on les coordonne ? Est-ce que cette coordination, elle va remettre en cause ou pas l'indépendance des banques centrales ? Donc c'est aussi ce type de débat-là qui est nécessaire pour remettre finalement en cause un peu le modèle et avoir une stratégie plus coordonnée et plus efficace.
On a parlé de la vision de la monnaie que l'on pouvait trouver chez Jean-Baptiste Say, chez Keynes, chez Friedman. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles théories monétaires qui apparaissent. Le gouvernement fédéral n'a rien à voir avec un ménage. Pour qu'un ménage ou une entreprise privée puisse dépenser, ils doivent posséder une certaine somme d'argent. Or, le gouvernement fédéral ne peut jamais manquer d'argent. Il n'aura jamais affaire avec un problème de solvabilité, à l'arrivée de factures qu'il ne peut pas payer. Il n'a jamais à se soucier de trouver l'argent afin d'être en mesure de dépenser. Et la question est alors, devrait-on étendre les politiques fiscales ? Devrait-on mener un déficit de budget plus important dans le but de stimuler la croissance ? Quel est l'objectif, le but en soi ? Je pense que le bon objectif est de maintenir une économie équilibrée, où l'on atteint le plein emploi, où l'on empêche une accélération du risque d'inflation. Et les économistes devraient comprendre que le genre de choses que vous pouvez faire pour garantir la croissance sur le long terme sont l'investissement dans l'éducation, les infrastructures, la recherche et le développement.
Voilà, on vient d'entendre Stéphanie Kelton, conseillère économique de Bernie Sanders et figure de proue de la Modern Monetary Theory, la théorie monétaire moderne. C'est une théorie selon laquelle les déficits n'ont pas d'importance finalement pour les pays en mesure d'emprunter dans leur propre monnaie. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision, Jezabel Coupé-Soubéran ?
On fait dire beaucoup de choses à cette théorie monétaire moderne. Alors, s'il s'agit d'y voir une politique budgétaire active... très bien. S'il s'agit d'y voir une politique consistant, si vous voulez, à laisser filer en permanence le déficit public et à garantir son financement par la Banque centrale, je me dis qu'il y a quand même un problème à ce niveau-là, c'est que on n'intègre pas du tout la dimension contracyclique que doit avoir la politique budgétaire, c'est-à-dire que la politique budgétaire comme la politique monétaire doivent systématiquement aller à rebours du cycle. Et donc, il ne s'agit pas de laisser filer n'importe comment, si vous voulez, le déficit public. En revanche, il s'agit de se servir de la politique budgétaire en soutien de la croissance et pour réaliser des investissements d'avenir quand on en a besoin. Moi, ce qui me gêne dans la théorie monétaire moderne, au fond, c'est qu'elle...
Qui fait beaucoup de bruit aux États-Unis en ce moment.
Qui fait beaucoup de bruit, mais chez nous aussi, on commence à en entendre parler, mais c'est on a l'impression, si vous voulez, que le problème, ce serait le financement des États. Or, depuis pas mal d'années, et depuis justement ces politiques monétaires non conventionnelles, les États n'ont pas de problème de financement. Ils se financent à taux zéro, voire même à taux négatif. Le problème, c'est plutôt, que font-ils de cela? Est-ce qu'ils ont bien utilisé ces taux bas, voire ces taux négatifs? Est-ce qu'ils les ont utilisés, par exemple, pour réduire la charge d'intérêt associée à d'anciens financements? Est-ce qu'ils utilisent ça pour mener des investissements dans la transition écologique, dans l'éducation, dans la santé? Non. Donc, vous voyez que le problème, c'est pas tant un problème de financement des États auxquels entend répondre cette théorie monétaire moderne. Le problème, c'est que font les États avec
les... La question de l'allocation des ressources. Exactement. Christophe Bleu, je voudrais vous entendre sur la théorie monétaire moderne.
Et ce qu'on voit, et ce que vient de dire Gisabella, là, c'est qu'en fait, on parle pas de politique monétaire, là, on parle de politique budgétaire. Finalement, quels sont les objectifs qu'on va donner à la politique budgétaire en matière de régulation cyclique? Donc effectivement, dans ce cas-là, c'est plutôt expansionniste quand la situation macroéconomique se dégrade et plutôt restrictif ou quand la situation va mieux. Mais là, du coup, c'est en
fait... Quitte à adapter les impôts, d'ailleurs, selon le cycle économique dans lequel on se trouve.
Oui, voilà, c'est ça. Éventuellement, là, la question, c'est d'aller potentiellement au-delà, hein, souvent dans le programme, effectivement, là, défendu par les démocrates, c'est de donner un ensemble d'autres objectifs, alors qu'on peut effectivement accepter des objectifs sociaux, des objectifs de transition énergétique. Et effectivement, dernier point, où là on revient sur la monnaie, c'est que c'est la question du financement. Comment on finance ces politiques budgétaires-là? Donc on peut, effectivement, ces objectifs, ils sont éventuellement acceptés ou pas par les citoyens. Et ensuite, la question du financement, et ce que nous dit cette approche, c'est que finalement, au lieu d'émettre de la dette qu'il faudra rembourser, finalement, c'est la banque centrale qui va faire des avances au trésor, et ces avances ne seront pas nécessairement remboursées, donc on va créer de la monnaie pour accompagner ces politiques-là.
Tout en veillant à ce que ça ne provoque pas de l'hyperinflation.
Et alors, du coup, c'est là où
c'est un petit peu le danger.
Tant que, effectivement, on peut continuer ce type de politique-là, parce que finalement, aujourd'hui, on voit bien que cette relation entre la monnaie et l'inflation, est plutôt distendue, et donc ça va. Il y a peu de risque d'inflation. Et dernier point, c'est qu'on voit aussi que ça, du coup, ça conditionne complètement la politique monétaire à ce qu'on veut faire en matière de politique budgétaire. Donc, ça veut quand même dire qu'il faut fortement revoir le statut des banques centrales et leur indépendance, qui est de fait ici largement remise en cause.
Isabelle Couperin, et ce sera notre conclusion, parce qu'on arrive presque au terme de l'émission.
Oui. La question clé, me semble-t-il, c'est quelle capacité de dépense la Banque centrale parvient-elle à induire quand elle mène la politique monétaire? Les politiques monétaires non conventionnelles n'ont pas véritablement réussi, si vous voulez, à induire directement une capacité de dépense additionnelle. Elles ont beaucoup profité aux banques, aux marchés financiers, mais ça n'a pas permis de libérer véritablement une capacité de dépense. Il y a d'autres propositions aujourd'hui qui sont débattues, bien au-delà de la théorie monétaire moderne. Cette idée, par exemple, d'un quantitative easing for people, d'accord, de la monnaie centrale qui serait distribuée aux ménages ou qui serait prêtée aux entreprises.
Et là encore, c'est une politique budgétaire.
Mais pas vraiment, ça dépend en fait. Mais ça implique, si vous voulez, vraiment de flécher la destination de cet « argent » entre guillemets.
Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet pour le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffen.
La Grèce lève le contrôle total sur les capitaux bancaires. C'est un nouveau signe de la reprise économique?
En tout cas, c'était des restrictions prises en 2015 au plus fort de la crise pour empêcher une sortie des capitaux et de la zone euro. Alors qu'aujourd'hui, la Grèce est en transformation. C'est net avec le changement politique, avec la droite de nouveau après 4 ans de gauche radicale. Et puis avec la reprise économique plus lente, mais avec de bons signes comme la croissance ou le budget qui dégage des excédents, des signes plus mitigés quand même comme le chômage ou la dette qui atteint toujours 180% du PIB. Alors quel effet attendre vraiment de la levée de ces restrictions qui concernaient, disons, des gros mouvements de capitaux, hein, pas la limite de retrait des 60 euros aux distributeurs? Eh bien, moins un afflux massif qu'une mise à jour, explique David Kella, il est maître de conférence à l'université d'Angers.
À mon avis, ça ne serait pas une mesure qui aura un effet énorme sur la croissance, puisque la plupart des industriels grecs pouvaient de toute façon commercer avec l'étranger sans aucun souci. Le gouvernement annonce plutôt une mesure de confiance, c'est-à-dire montrer en disant « bah voilà, on va normaliser complètement la situation grecque ». Alors, cette normalisation, elle était beaucoup plus importante lorsque l'État grec a commencé à réémettre des obligations sur les marchés. Donc là, ça voulait dire qu'il pouvait emprunter sans avoir besoin d'aide européenne. Et là, maintenant, il n'y a plus aucune limite au mouvement de capitaux, comme cela d'ailleurs est prévu par les traités. Moi, je pense qu'on ne prend pas beaucoup de risques, puisque la confiance est à peu près rétablie. Enfin, les taux ont baissé, les tourismes sont revenus, la croissance est à peu près repartie. Donc, comment dire, plus personne ne pense maintenant que la Grèce va quitter la zone euro.
Voilà, une mise à jour, mais une annonce qui arrive aussi plus tôt que prévu, c'est ce que dit le nouveau Premier ministre grec.
Oui, c'était même un engagement électoral, hein, rappelait-il hier, Kyriakos Mitsotakis, ce ministre. Ce dernier veut donc, vous l'avez entendu, donner l'image d'un pays en voie de normalisation financière. Et puis, il était aussi en opération séduction auprès des investisseurs de plusieurs pays européens la semaine dernière, à Berlin, La Haye, vendredi en France, où il appelait, je cite, à saisir le bond de croissance.
On passe au bref. En France, la souveraineté protéinique, de nouveau en question.
Oui, c'était hier une des expressions marquantes d'Emmanuel Macron aux 20h de France 2, lui qui a dénoncé une part de complicité européenne, hein, je le cite, dans les déforestations au Brésil à cause des achats de soja brésilien massif, a aussi déploré la dépendance aux protéines envers l'Amérique latine, pour la nourriture, pour les animaux, pour l'élevage. Déjà, dès janvier 2018, lors de ses vœux à l'agriculture, le président avait plaidé pour une vraie stratégie protéine pour les 5 ans à venir, en chiffrant à 40% le soja français utilisé et importé.
Une première pour l'industrie de la santé aux États-Unis, la condamnation d'un fabricant de médicaments dans la crise des opiacés.
Et ce sont là 572 millions de dollars d'amende pour Johnson & Johnson, un des trois plus gros industriels de la pharmacie. Premier jugé et condamné pour sa responsabilité commerciale dans cette crise de la surconsommation de médicaments antidouleurs à base d'opium. 4000 personnes mortes rien qu'en Oklahoma. Le tribunal a donc reproché, je cite, des pratiques trompeuses de marketing et de promotion des opiacés, c'est-à-dire d'avoir caché le risque d'addiction à ces produits, à savoir si c'est une punition ou bien le fait d'être épargné pour Johnson & Johnson, qui risquait quand même jusqu'à 17 milliards de dollars d'amende.
En Afrique de l'Ouest, au Libéria, ce sont d'anciens responsables de la Banque centrale qui vont être jugés pour complot criminel et sabotage économique.
5 personnes, dont Charles Sirleaf, l'ancien vice-gouverneur de la Banque centrale du Libéria et fils de l'ex-présidente, accusé d'avoir fait imprimer sans justification plus de 14 millions d'euros en dollars libériens entre 2016 et 2018. Et 2018, accusé également de blanchiment la semaine dernière, tous ont plaidé unanimement coupables, à savoir que ce ne sont pas les seuls dirigeants de la Banque centrale libérienne à être visés après un audit gouvernemental. Les fraudes porteraient sur 16 milliards de dollars libériens, soit 90 millions d'euros.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre chronique est à réécouter sur notre site franceculture.fr et en podcast. On se quitte avec Johnny Ma, Easy Money. Merci beaucoup, Isabelle Coupé-Souberan et Christophe Blou, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans les dédales des banques centrales. À noter que l'économie mondiale 2020, une publication du CEPI et de la Découverte à laquelle vous avez participé, Isabelle Coupé-Souberan, paraîtra le 12 septembre. Demain, nous reviendrons sur les causes économiques des révolutions de 1848 en nous appuyant sur la pensée de Marx et Engels. En attendant, n'hésitez pas à réécouter nos podcasts sur franceculture.fr et en podcast.